Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Chant contre Chant, émission mensuelle sur le cinéma réalisée sur Fréquence Protestante par l'association Profil. Cette émission sera présentée par moi-même, Jacques Champeau, et animée par Marie-Jeanne Campana.
Bonjour. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour tout le monde.
Par Yves Ballanger, bonjour Yves.
Bonjour Jacques, bonjour tout le monde.
Et par Jean-Michel Zucker, bonjour Jean-Michel.
Bonjour à tous.
Notre émission d'octobre est encore marquée par le Festival de Cannes, puisque deux des films dont nous allons parler ont été présentés en mai sur la Croisette. Nous reviendrons d'abord sur le film de Jacques Audiard, Les Frères Sisters, que Jean Lot avait évoqué en coup de cœur lors de notre précédente émission. Le film nous a semblé en effet mériter une discussion plus complète. Et après ce film très viril d'un réalisateur connu, nous parlerons de deux films de jeunes réalisateurs qui parlent de femmes, et d'adolescentes plutôt, et qui, chacun dans leur genre, ont créé la surprise à Cannes. Le premier est un film venant du Kenya, Rafiki, de la réalisatrice Vanuri Kayu, dont c'est le premier film. Et premier film aussi pour Lucas Dante, un jeune réalisateur flamand qui, pour son film Girl, a reçu la Caméra d'Or, le prix du meilleur premier film. Alors, commençons par Les Frères Sisters de Jacques Audiard, qui a été présenté à la Mostra de Venise, où le film a reçu le Lion d'Argent. On n'a pas vraiment besoin de présenter Jacques Audiard, né en 52, fils du réalisateur Michel Audiard. Il a commencé sa carrière au cinéma comme monteur, avant d'être scénariste, puis réalisateur. Depuis son premier film « Regarde les hommes tombés », qui date de 1994, il est l'auteur de 8 longs métrages, dont certains ont reçu les plus prestigieuses récompenses. « De battre mon cœur s'est arrêté » a été meilleur film et meilleur réalisateur au César en 2005. « Un prophète » a reçu le Grand Prix du jury à Cannes en 2009. Et « Tipan » a reçu la Palme d'Or, un peu controversée, mais une Palme d'Or en 2015. Son cinéma combine cinéma de genre et cinéma d'auteur. Le thème récurrent de ses films est l'homme prisonnier de la violence et qui ne trouve en fait la paix qu'au prix d'une renaissance. Même si ce thème est un des thèmes classiques des westerns, il n'en avait en fait jamais réalisé jusqu'à ses Frères Sisters. Alors Marie-Jeanne, cette incursion dans le western est-elle réussie ?
Oui, absolument. Je reconnais qu'on pouvait être méfiant devant un western réalisé par un Français et peu familier du genre. Mais on aurait tort, car c'est une totale réussite, et ceci pour trois raisons. La première est que, certes, le réalisateur a sacrifié aux poncifs du genre, crépitement des balles, des hommes qu'on abat comme des cibles de foire, la magnifique scène d'ouverture avec ferme en flammes, chevauchée des deux bandits, et puis le plan cruel d'un cheval en feu fuyant l'horizon. Mais à y regarder de plus près, il se révèle un western un peu particulier, un western apaisé, comme le dira le réalisateur lui-même, et un western qui bouscule les codes du genre. Je dirais plutôt, en ce qui me concerne, un anti-western original, où il n'est question ni de bon, ni de méchant, ni d'honneur à venger, ni de saloon avec des dames au rôle bien défini, ni de shérif, mais des personnages qui parfois lisent, écrivent, qui parlent de politique et qui se confient. Audiard nous plonge avec des revirements constants de situations assez spectaculaires, je dois dire, dans une analyse profonde des rapports de fraternité. Quelle place a le cadet par rapport à son aîné ? Peut-il le commander ? Peut-il faire fi de ses conseils ? Alors, certes, ce sont des brutes épaisses, violentes et à la gâchette facile. Mais, au travers de leurs discussions très freudiennes, l'humain transparaît avec ses fragilités, sa vulnérabilité et surtout le poids d'un lourd passé familial. Le cadet, d'ailleurs, dira que s'ils sont violents, c'est au sang pourri de leur père qu'ils le doivent. Un père abruti sanguinaire qu'il a fini par tuer, mais dont le fantôme les hante naturellement. C'est un récit douloureux qui donne au film une tonalité grave, tragique, intime et bouleversante. Cette chevauchée s'achèvera sur ce que Élie, l'aîné, souhaite profondément, le retour à une vie paisible, en l'occurrence chez maman. C'est le message d'humanité que nous transmet Audiard. Même chez les pires individus, il y a l'espoir du changement et de la rédemption. Et c'est à mon avis ce qui en fait un grand film.
Alors il y a cette histoire familiale, mais on peut aussi voir dans ce film une certaine réflexion sur la société.
Oui, et c'est là ma deuxième raison pour laquelle je trouve que c'est un grand film. Audiard mène également une réflexion sur l'Amérique, celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Avoir toujours plus, toujours aller plus loin dans l'utilisation de moyens techniques, sans souci de l'environnement. Bon, bref, le capitalisme violent. Mais aussi la préoccupation de certains, qui constitue l'espoir, pour une société de partage, sans violence, sans crime, où chacun trouvera sa place sans bousculer les autres.
Oui, c'est ce qui est assez original pour un western. Mais est-ce qu'on ne prend pas surtout plaisir, en fait, à la qualité cinématographique du film ?
Absolument, oui. Je vois que nous sommes d'accord. C'est ma troisième raison et c'est une réussite également par sa mise en scène qui est parfaite, brillante, maîtrisée, précise et récompensée, comme tu l'as rappelé, par un Lion d'or à la Mostra de Venise. Également par les très belles lumières de Benoît Deby, par la musique très jazzy d'Alexandre Desplat et par un quatuor d'acteur américain absolument remarquable, John C. Reilly dans le rôle d'Elie, l'aîné, Joaquin Phoenix dans le rôle de Charlie le cadet, Jake Gyllenhaal dans le rôle du détective, converti aux thèses de Warm qui est le savant utopiste, incarné par Riz Ahmed.
Alors, Jean-Michel, est-ce que tu partages l'enthousiasme de Marie-Jeanne ?
Non,
Pas du tout. Tu n'aimes pas les westerns ?
Pas du tout. J'aime pas beaucoup les westerns, c'est vrai, mais j'aime bien les westerns traditionnels et je ne vois pas tout ce que Marie-Jeanne voit dans ce film. Je suis pas du tout sensible à tout ça. Je me demande pourquoi ce titre accrocheur des Sisters Brothers. Qui ne survit.
Oh, ça vient du livre, hein. C'est pas Audiard qui l'a inventé.
Non, oui, mais enfin, la traduction française n'en rend pas compte, puisqu'on dit les frères sisters.
Effectivement.
Mais c'est un jeu de mots.
C'est un détail. Oui. Mais alors, c'est un scénario qui me paraît quand même, bien que ce soit un détournement des codes, et effectivement, mais un scénario quand même un peu tordu. Moi, je ne m'intéresse pas tellement à cette histoire d'Orpailleur, avec la mythologie du Far West en fond.
T'es pas rentré dedans.
Je suis pas rentré dedans. La violence. Et tout ça pour fonder un phalanstère pour lutter contre la cupidité des hommes. Ouais, si on veut, mais enfin
c'est pas tout
le
ça.
Le destin en décidera autrement.
Bon, et tout ça pour se terminer chez maman. Alors, avec des éléments de psychanalyse de bazar, excusez-moi, il y a des poncifs. La seule chose qui m'intéresse, c'est que ces deux personnages, il y en a un qui est plutôt pervers, et l'autre qui est plutôt débile, et j'imagine et je rêve au livre qu'aurait écrit James Hadley Chase sur ces deux personnages qui lui auraient parfaitement convenu.
Peut-être, mais ce n'est pas le sujet.
Autrement, je suis extrêmement... Je ne dirais pas déçu, parce que je n'ai pas une grande admiration pour les films d'Audiard, et ça me confirme...
Ah, et tu n'es pas rentré dedans.
Pas
bon,
du tout,
c'est pas ton
du
cinéma.
Tout audiardesque.
C'est dommage.
Yves.
Alors, d'une certaine façon, je me rapproche de ce que tu dis, Jean-Michel. Moi, j'ai bien aimé le début. Et notamment la toute première scène, séquence préliminaire,
extraordinaire.
Qui est absolument extraordinaire, hein, parce que il se passe en pleine nuit, on ne voit rien, simplement les coups de feu qui illuminent, on entend les voix, nous sommes les frères sisters. Ça se termine lamentablement, d'ailleurs, par je rappelle la phrase d'un des personnages, on a merdé. Et moi, cette scène m'a emporté. Mais j'ai trouvé après qu'elle, le film ne tenait pas la promesse, cette promesse initiale.
C'est-à-dire qu'après... Oui, parce que là, il y avait de l'humour.
Il y a de l'humour tout au long du film.
Il y en a tout au long du film, de l'humour.
Oui, il y a de l'humour. Et notamment dans les dialogues savoureux entre les deux personnages. Moi, je ne suis pas d'accord quand même avec toi, Jean-Michel, sur dire que l'aîné est débile. Il n'est pas débile.
Non.
Il apparaît débile au départ, mais...
Il est doux, c'est un doux.
Mais bon...
C'est un doux assassin.
Oui, c'est un gentil.
C'est un gros nounours.
C'est un gentil qui tue.
C'est un gentil nounours.
Oui, c'est ça.
Il a quelques réflexions quand même
il fait des interprétations psychanalytiques.
Mais pas de bazar.
Non, ce que je voulais dire, moi, quand même, pour terminer, c'est... J'ai trouvé quand même que le film ressemblait... Enfin, moi, j'avais l'impression de lire du Lucky Luke.
Oui, tu as tout à fait raison.
Il y a ce côté BD, mais qui, je trouve, Marie-Jeanne, estompe un peu tout ce que... tout le message qu'il aurait dû y avoir, mais encore.
Alors, c'est le côté BD est moins, à mon avis, dans l'histoire même que dans certains décors, certaines mises en scène, même. Où effectivement on pense à Lucky Luke, c'est vrai. Oui. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est en fait le fait que c'est c'est un western sans être un western. C'est-à-dire qu'on retrouve tous les classiques du western, hein, les fusillades, les trucs comme ça, les chevauchées, toute cette fièvre de l'or. Mais en fait, complètement revisité. C'est-à-dire que bon, les fusillades, au fond, elles sont très très courtes. On les voit pas. On n'est pas du tout dans le western spaghetti où on est très long, enfin, où elles durent très longtemps. Mmh. Et les chevauchées, c'est en gros pour discuter entre les frères. D'ailleurs, Audiard dit à un moment, en fait, ce film, dans une interview, j'ai vu ça, il dit c'est uniquement une discussion entre frères qui, au lieu de se passer dans un salon ou dans un cabinet de psychanalyste, se passe sur des chevaux. Et je crois qu'effectivement, le film, il est décalé comme ça. Enfin,
Oui, mais c'est ce qui me plaît, moi. C'est qui m'a
oui,
plu.
Non, mais c'est vrai. Bon,
on pourrait ce que j'ai aimé dans ce film.
Alors, ça peut plaire ou ça peut déconcerter, c'est oui. Vrai, quoi. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé, alors, en termes de travail d'image, là aussi, c'est assez différent du western, parce que il y a des chevauchées, il y a des grands espaces, mais les grands espaces... ça représente une faible partie du film. En fait, on est beaucoup plus souvent dans des intérieurs, dans des saloons, dans des hôtels, dans des maisons, voire dans des bivouacs. Là, on est beaucoup plus souvent la nuit, avec des éclairages d'ailleurs assez beaux, plutôt que dehors. Et là aussi, c'est un peu l'inverse du western traditionnel, quoi. Mmh. Bon,
l'anti-western.
Oui, l'anti-western, mais... peut-être pas, mais...
Je trouve qu'il n'est pas allé au bout du décalage.
Alors ça, c'est effectivement toujours une question qu'on se pose, parce que la grande histoire du western, c'était effectivement dans les années 50. Donc chaque fois que maintenant on revisite un peu le western, on se dit, était-il nécessaire de revisiter le mythe? Moi, j'ai aimé, mais bon, voilà.
Non, il y a un côté brillant. Il y a un côté brillant.
Et puis les personnages sont quand même... Les acteurs sont remarquables.
Ah oui,
il y a un poids quand même, les acteurs...
Le final, quand même, le retour.
Ah ben, le final à la maison.
Ça fait vraiment.
Moi, j'ai pensé au frère Dalton face à
Mme
Dalton.
C'est...
Alors, ça casse un peu.
Non, mais il y a un peu de ça.
Mais là, c'est plein d'humour, ça.
Oui, c'est un humour qui n'arrive pas à se marier complètement avec cette réflexion que tu as dit sur l'argent corrupteur.
C'est une partie du film, c'est un des éléments du film.
Là, l'or qui corrompt, c'est un thème classique de western. Ouais. Et là, il faut dire quand même que la métaphore au plan visuel est assez somptueuse.
C'est extraordinaire.
Et puis, il y a cette espèce de destin qui fait que ça ne se passe jamais comme c'est prévu. qui m'a assez plu, mais bon, voilà.
Ouais.
Bon. Alors, nous passons à un film très très différent, Rafiki, de Vanuri Kayu. Alors, les films d'Afrique noire qui sortent en France sont malheureusement assez rares, et c'est une raison supplémentaire d'aller voir ce beau film qui nous vient du Kenya. La réalisatrice est née à Nairobi, d'un père homme d'affaires et d'une mère médecin, et elle a étudié le cinéma à Los Angeles. Son premier long métrage de fiction, From a Whisper, date de 2008, et évoque l'attentat à la bombe de l'ambassade américaine à Nairobi en 1998. Le film a reçu plusieurs récompenses à l'African Movie Academy Awards en 2009. Elle a aussi réalisé des documentaires et un court-métrage de science-fiction assez original, Punzi, présenté au Festival de Sundance. C'est de la science-fiction transposée en Afrique. C'est assez rare. Dans certaines interviews, Vanuri Kayu critique le financement des films africains qui irait, selon elle, un peu trop au film qui montre les maux traditionnels de l'Afrique vus par les Occidentaux et donc le travail des ONG beaucoup plus que la réalité africaine. Alors Rafiki a été donc sélectionné et présenté à Cannes, c'est peu de films africains à Cannes, dans la section Un certain regard, et malheureusement en même temps il était censuré au Kenya. Alors Jean-Michel, avec ce film, on est dans l'Afrique traditionnelle ou on est dans une Afrique plus moderne et plus universelle?
Les deux, mon général. Le film se veut très moderne et milite pour la liberté amoureuse, c'est le thème central. Néanmoins, les pesanteurs de la tradition prendront le dessus pour une fin qu'on peut considérer comme douce amère. Il s'agit là du premier film kényan jamais sélectionné au Festival de Cannes Et bien que son film ait été censuré à Nairobi, la réalisatrice a pu finalement se rendre sur la croisette pour l'accompagner.
Et alors, avant d'en arriver là, dis-nous de quoi il s'agit et comment se déroule la narration.
Eh bien, c'est une belle histoire. C'est globalement un beau film. À Nairobi, Kenna et Ziki sont deux lycéennes qui cherchent chacune à leur façon à poursuivre leurs rêves et à vivre leurs passions. Leurs chemins se croisent en pleine campagne électorale au cours de laquelle s'affrontent leurs pères. Attirées l'une vers l'autre dans une société kényane conservatrice, les deux jeunes femmes vont être contraintes de choisir entre amour et sécurité. Et cette narration s'inspire étroitement de l'esprit d'une nouvelle ougandaise, Jambula Tri, de Monique Arag de Nieko, mais dans une transposition kényane. Alors le terme rafiki veut dire ami, amieux en swahili. Et c'est ce titre qui a été retenu pour désigner le film, qui s'ouvre par une séquence où explose l'énergie de la jeunesse kényane, qui danse, qui fait de la musique, et crée une culture et une identité dans une ville qui s'étend chaque jour et devient de plus en plus moderne. C'est cette vitalité culturelle qu'il faut retenir et qui éclate dès le début du film au visage du spectateur, avec une séquence générique que vous vous rappelez, qui est extrêmement amusante et brillante, avec des couleurs fluo, des sons, des chansons pop, dans une esthétique qualifiée par la réalisatrice elle-même d'afro-bubblegum. Afro-bubblegum. Bon, pourquoi pas. C'est une esthétique stimulante, certes, mais aussi qu'on peut considérer comme un petit peu banalisante et superficielle, qui pouvait risquer de noyer les aspérités de l'aventure de ces deux filles. Heureusement, me semble-t-il, l'écueil est partiellement évité, car si Kenna et Ziki vivent un amour qui les fait planer dans les séances de séduction et d'accompagnement et qui sont les leurs, elles sont ramenées aux contraintes de la dure réalité par la politique et la religion, et par l'hostilité d'une société résolument homophobe.
Et alors cet amour homosexuel qui est vécu dans le film, comment y contribuent les personnalités assez différentes des deux héroïnes ?
Alors effectivement, elles sont très différentes. C'est probablement là qu'est la plus grande richesse du film, bien davantage que dans l'antagonisme entre les pères et le souci qu'ils ont de leur carrière. Les deux jeunes actrices, qui sont toutes deux débutantes, Samantha Mugatsia et Sheila Muniva, il faut les citer, sont pleines de vie et rayonnantes et ont une énergie personnelle, une énergie communicative avec un jeu qui s'est nourri de leurs expériences personnelles, de leur vie personnelle. Ainsi, Kenna est un personnage qui est dans le film un tomboy qui traîne avec les garçons et joue au foot, tandis que Ziki fait partie, elle, d'une bande de filles, comme on a pu le voir dans d'autres films. Toutes deux veulent vivre leur amour, mais ce sont des amoureuses et non pas des militantes. Et cet aspect-là n'est pas véritablement saillant dans le film. Et malgré le courage qu'il a fallu à la réalisatrice pour tourner ce film maudit dans son pays, cet amour ne sera qu'un feu de paille qui aura eu cependant le mérite de poser la question des droits humains au Kenya à travers une belle et émouvante histoire d'amour interdite écrite par une réalisatrice féministe et engagée.
Alors, Marie-Jeanne, tu en penses quoi ?
Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Alors, bien sûr, on peut dire qu'il y a des petits bémols parce que c'est une œuvre de jeunesse quand même, c'est son deuxième long métrage, mais on peut passer là-dessus très très facilement parce que c'est un film qui m'a paru moi plein de pudeur, de subtilité. Tout se passe, beaucoup de choses se passent dans leur regard et non pas dans des manifestations physiques. C'est en plus un film qui a un montage très dynamique, Et avec une musique rap. D'ailleurs, toutes les musiques ont été écrites par des femmes africaines.
Il n'y a oui, que des. Il y a du, y a du tonus, dans le film.
Oui, qui donne du tonus et qui donne une légèreté à un sujet qui finalement est très très sérieux. Oui. Et c'est un film très courageux parce que elle, bon, interdit au Kenya, elle risque d'ailleurs, c'est puni par la loi, l'homosexualité est punie par la loi et elle risque, elle, d'être punie dans son propre pays. Donc c'est un film militant. Féministe, militant, et qui mérite vraiment d'être
sans paraître vraiment militant, d'ailleurs.
Sans vouloir le paraître.
Oui. Non, justement, moi, ce que j'ai beaucoup aimé... Non, j'ai beaucoup aimé, hein, je vous rassure tout de suite. Aussi, je partage tout à fait.
On est assez consensuel.
Je partage point de vue. Enfin, bon, moi, j'ai... Effectivement, on est emporté par cette histoire. En plus, c'est chatoyant, c'est coloré, c'est solaire. C'est absolument extraordinaire. Et justement... Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'est pas militant, ce film. En fait, elle filme au plus près la découverte amoureuse que font ces deux adolescents.
Pas militant au sens pédago du terme.
Oui, même militant au sens dénonciateur. Bon, bien sûr.
Dans le contexte, il est militant, forcément.
Oui, mais je veux dire, il ne se positionne pas en film militant.
Non, mais tourner un film comme cela au Kenya sur un tel sujet, c'est un acte politique.
Tout à fait. Mais
sur la forme, c'est vraiment, cette naissance à l'amour entre deux jeunes filles qui savent bien que ça ne va pas être simple autour d'elles. Mais, et c'est ça qui est extraordinaire. Et on est emporté et on les suit. Et voilà, quoi. Bon, je mets un tout petit bémol sur la deuxième partie qui m'apparaît justement dans son traitement un peu plus bancal, comme si l'absence de Ziki dans cette deuxième partie rendait plus difficile le film. Mais globalement, il est quand même excellent. Et effectivement, tu as parlé de fin douce amère, mais c'est une fin ouverte. La fin est ouverte. Laisse présager que peut-être on arrivera un jour à dépasser ces handicaps sociaux et autres. Quoi. Enfin, bon, moi, un beau film, je crois qu'il faut le voir. Quoi. Il est absolument extraordinaire.
Un beau film, c'est nuancé.
C'est ça qui est plaisant dans ce film. C'est qu'effectivement, à la fois la situation est dramatique, mais la légèreté de ton, le tonus, etc., rend finalement
plaisir,
la vitalité des deux héroïnes fait très bien passer. Moi, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est les différences entre les deux, justement, parce qu'il y en a une qui est beaucoup plus exubérante et extériorisée, finalement, quand elle est en public, prête d'une certaine manière à prendre des risques sans doute un peu inconscients, alors que l'autre est plus entreprenante quand elle sont en privé. Donc c'est assez intéressant, cette subtilité des deux caractères. Eh bien, nous sommes assez tous d'accord là sur ce film, nous allons marquer une petite pause musicale avant de continuer. Alors nous continuons avec notre dernier film, Girl, qui a enthousiasmé la critique et le public à Cannes et qui a été récompensé par la Caméra d'Or, comme je l'ai dit, meilleur premier film, et par un prix d'interprétation pour le jeune acteur qui tient le rôle principal, Victor Polster. Alors Luc Adant est un jeune réalisateur flamand qui est né en 1991 et avant Girl, qui est son premier long métrage, il a réalisé quelques courts-métrages, donc Corps perdu en 2012 et L'infini en 2014. Alors, il explique qu'il a eu connaissance par un article de journal d'une jeune fille qui voulait devenir danseuse étoile, mais qui était née dans un corps de garçon. Initialement, il voulait en faire un documentaire, mais la jeune fille a refusé, mais elle a accepté de lui raconter son histoire, et c'est ainsi qu'il en a fait une fiction, l'histoire de Victor, devenue Lara. Alors, Yves, as-tu été aussi enthousiasmé que les spectateurs de Cannes qui ont fait une standing ovation à Luc Adant ?
Oh oui, un film enthousiasmant, certes, pas dire le contraire. Un film qui a peut-être pu désarçonner certains spectateurs, parce que d'habitude, ce type de film qui porte sur les changements d'identité sexuelle nous raconte un peu toutes les difficultés des personnages avec leur environnement, leur entourage familial. Et c'est souvent des films un peu dramatisés, voilà, pas très enthousiasmants. Là, pas de conflit hein, du tout de la part de cette jeune fille dite Lara, qui s'appelait auparavant Victor. Donc, tout le monde, tout son entourage l'encourage, son père la soutient. Vraiment, tout le milieu proche l'accompagne. Bon, il y a une toute petite exception avec ses collègues de danse qui, à un moment donné, la somme de se montrer pour savoir si elle est une fille ou un garçon. Voilà. Mais donc, effectivement, pour certains spectateurs, j'ai entendu certains spectateurs dire que c'était pas crédible de telles situations.
Voilà. Alors, si effectivement, le film ne porte pas sur les difficultés à faire accepter son choix, sur quoi porte-t-il ?
Alors, bon, au premier abord, je dirais que le film est une espèce de chronique qui porte un peu sur la vie presque quotidienne hein, de Lara. On la voit à la maison avec son père, son petit frère, j'ai oublié, Milo, hein, je crois qu'il s'appelle, hein, et ces moments de partage, d'intimité, de quelques petites disputes, mais enfin bon, la vie familiale. On la voit aussi beaucoup, bien sûr, à l'école de danse, hein, puisqu'elle veut devenir danseuse étoile, comme si d'ailleurs c'était ça le signe de sa féminité. Et on la voit beaucoup dans des scènes de répétition qui peuvent paraître harassantes, ça va jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la douleur. On la voit aussi avec ses collègues de danse, justement, dans les vestiaires, qu'elle fuit souvent pour échapper aux douches collectives. Et on la voit aussi avec dans le suivi médical et psychologique. Hein. C'est là d'ailleurs que il y a un côté un peu documentaire. Hein. Voilà. Auquel son père assiste. Hein. Voilà. Et donc, voilà, on la suit.
Elle est effectivement très bien entourée, mais est-ce pour autant une évolution si tranquille que ça ?
Alors c'est ça, ce qui effectivement saute aux yeux très vite, c'est que malgré un entourage très favorable, qui lui dit d'ailleurs qu'elle est déjà ce qu'elle sera ultérieurement, elle, visiblement, elle est impatiente de vraiment devenir femme, et je dirais qu'on la voit très souvent s'isoler de son entourage. Hein. Elle est seule, elle se regarde dans les miroirs pour voir où elle en est, mais elle se contemple avec anxiété. Hein. C'est pas le plaisir de se regarder. On la voit aussi à l'école de danse qui palpe ses orteils douloureux. Voilà. Et surtout, par moments, elle s'absente dans les dialogues qu'elle a avec tous ceux, les médecins, les psychologues qui la suivent. Hein. Comme si, en fait, elle était dans un combat avec elle-même, contre elle-même. Hein. Une lutte, c'est ce combat, moi, qui m'a beaucoup marqué. Et on la voit d'ailleurs, les scènes les plus terribles, c'est quand elle décolle ses bandages.
Oui, ça c'est très dur.
Qui maintiennent son sexe contre son ventre, quoi. C'est ça, là, on sent bien que c'est douloureux. Et moi, elle m'a fait penser à un sculpteur qui est aux prises avec un bloc de marbre pour en faire sortir une forme, un mouvement, quoi. Ah. Voilà, c'est un peu ça.
Mythe. Moi, j'aime bien cette image, mais donc au-delà, en fait, de l'originalité du sujet, un beau film.
Ah oui, pour moi, enfin, en tout cas, un très très beau film que je recommande. Bon, il est fait tout en plan serré, avec des couleurs très très chaudes, souvent orangées, parfois bleutées. C'est un film qui vraiment nous fait entrer sans effraction et sans la moindre trace de voyeurisme dans l'intimité d'une adolescente, j'insiste sur le mot, c'est une adolescente, en train de se construire. En fait, c'est autant un film sur l'adolescence que sur le changement d'identité sexuelle.
Jean-Michel, tu en penses quoi, toi ?
Oui, je suis d'accord avec un certain nombre de, de considérations, comme le film sur l'adolescence, c'est vrai. Et c'est un sujet très à la mode, qui passionne les foules, mais moi, ce film m'a un petit peu agacé pour plusieurs raisons. Le scénario est un peu d'une façon répétitive, dans mon ressenti, le croisement de l'apprentissage de la danse par un jeune homme qui se vit comme une jeune fille, avec des séquences de démarches médicales, de changements de sexe qui sont effectivement documentaires, mais enfin très biologiques, très médicales. Alors c'est peut-être parce que j'ai un biais de regard, mais je trouve que ça, c'est assez pénible. Alors, il y a des alternances d'exercices de chorégraphie qui n'ont aucune spécificité, qui, moi, ne me paraissent pas comme spécialement bien filmés. J'ai vu Pina de...
Ah non, mais ça n'a rien à voir.
Je veux dire, ça n'apporte rien à la chorégraphie.
Mais bien sûr que non, pas à la chorégraphie, mais on voit son corps souffrir.
Oui.
Et c'est ça l'important. C'est un film sur le corps.
Il souffre comme tous les jeunes gens qui font de la chorégraphie.
Pas uniquement.
Ça, moi, je trouve que ces séances de chorégraphie sont profondément ennuyeuses. Et c'est aussi parce que je suis peut-être moins sensible à la chorégraphie. Et les consultations médicales sont d'une grande platitude.
Nous ne sommes pas médecins, mais le spectateur moyen ne l'est pas non plus.
Oui, mais c'est vrai. L'ensemble m'a vraiment fort ennuyé. Alors, personnage, prix d'interprétation. Effectivement, il a eu le prix d'interprétation à un certain regard. Mais...
Non précisé. Oui. On ne sait pas si c'est un prêt d'interprétation masculine ou féminine. Non, c'est pas précisé.
C'est vrai. Mais enfin, c'est un parcours. C'est le parcours de son changement de sexe biologique, mais c'est long et ça se termine par un geste de désespoir, si j'ai bien compris.
Tu n'as pas senti ceci. Non, mais il n'y a pas de suspense.
Non. On le sait.
Marie-Jeanne.
Je suis d'accord avec toi, Marie-Jeanne, je te laisse parler.
D'accord. Non, je ne partage pas ton avis, Jean-Michel. D'abord, premièrement, c'est pas un film sur la danse et la chorégraphie. C'est un film sur la souffrance d'une jeune adolescente qui est malheureusement pour elle avec beaucoup de souffrance dans le corps d'un homme et justement elle dit elle-même que comme elle n'a pas été habituée tôt à porter des chaussons de danse, ça l'a fait souffrir horriblement. Et donc on voit toutes ces scènes sont destinées non pas à nous faire apprécier la danse ou autre, mais à nous montrer point de vue chorégraphique c'est pas le sujet, non. C'est que ça nous montre la souffrance, la ténacité, la volonté de cette jeune fille de se hisser là où normalement sa physiologie naturelle ne la mettrait pas. Oui. Et j'ai trouvé que ce film, de ce point de vue-là, était très intéressant parce que il est subtil, il est intelligent. On filme souvent, tout passe souvent par le regard de ce jeune acteur. Et par exemple, la dernière scène où elle quitte, où son père et son petit frère sortent de l'appartement, où elle sourit, on sait qu'il va se passer quelque chose. On le sent dans son attitude, dans son regard. Et ça, c'est très fort quand même. Et j'ai trouvé que ce film était magnifique à tout point de vue. Surtout pour la souffrance que ça implique de ce genre.
J'ai énormément aimé ce film parce que j'ai trouvé... Alors, c'est vrai que c'est un sujet à la mode, comme tu dis, mais c'est un sujet, au fond, qu'on ne sait pas très bien comment aborder.
Ouais.
Et pour moi, je dirais que j'en avais une vision très intellectuelle et j'ai trouvé que ce film faisait pénétrer dans la souffrance... Ouais. Hein, de cette jeune fille, enfin de cette jeune fille née dans un corps de garçon. Et tout ça, en fait, en voyant son corps, en voyant effectivement l'impatience qui passe à travers le corps, etc. Et c'est en ça que la danse est intéressante, parce qu'elle rajoute encore un peu d'effort sur ce corps malmené à la fois par la danse et malmené par cette transformation. Donc, honnêtement, tout en restant très pudique, parce qu'en fait, c'est pas du tout un film...
Oui, oui.
Mais je trouve qu'il a une force extraordinaire. Enfin, le spectateur reçoit ça vraiment comme ressent quelque chose, moi que j'avais jamais ressenti. Je trouvais que c'était assez intéressant.
Et surtout la souffrance de ces gens-là.
Oui, exactement.
Oui, mais non. Enfin, je voudrais
pas une souffrance par rapport à l'opposition à Kaoda, une souffrance par rapport à elle-même.
Oui.
Et je voudrais revenir sur ce thème de souffrance parce que j'ai trop peur que nos auditeurs pensent que c'est un film qui fait uniquement dans le dolorisme.
Oui,
en fait, c'est une souffrance créatrice
pour
moi.
C'est une souffrance créatrice. Je suis désolé. d'interrompre là, mais il faut qu'on passe au coup de cœur, sinon nous allons déraper. Alors, Jean-Michel, tu veux nous parler de Donbass?
Oui, très vite. De Donbass, parce que c'est un film qu'il faut quand même citer, bien que ce ne soit pas véritablement un coup de cœur au sens habituel du terme. Mais Donbass, c'est un film très sombre qui poursuit la construction de l'œuvre d'un très grand cinéaste de notre temps, qui est Sergueï Losnitsa, ukrainien, qui a fait la réalisation et le scénario. Il est déjà auteur de 18 documentaires, dont Maïdan, que vous avez peut-être vu. Et Donbass est son quatrième long-métrage de fiction, après My Joy, Dans la brume et Une femme douce, qui est le plus récent. Dans le Donbass, qui est la région est de l'Ukraine, règne une situation confuse, faite de conflits armés et de crimes et de pillages. Une véritable guerre civile qui oppose l'armée ukrainienne, aidée par des volontaires locaux, aux gangs séparatistes appuyés par les troupes russes. Le film est constitué de 13 épisodes, chacun racontant une histoire qui se déroule entre 2014 et 2015 dans les territoires occupés. Tout commence par une séquence générique où un groupe de femmes et d'hommes se maquillent, s'habillent avant d'être emmenés au pas de course par deux militaires sur le plateau d'un film, une place où a eu lieu un attentat contre un bus. On verra ensuite, entre autres, des journalistes allemands traités de fascistes, le lynchage par des passants dans la rue d'un prisonnier exhibé comme traître par la police séparatiste, et enfin, le mariage loufoque et pitoyable d'un couple sous l'égide du parti Nouvelle-Russie. Au total, c'est un film objectif mais implacable, qui a des allures de documentaire, est ancré dans une réalité désespérante, mais incline à la méditation sur l'universalité du péché de l'homme. Un film déconcertant qui nous interpelle et reflète l'intention du réalisateur de nous montrer, dit-il, le type d'être humain engendré par une société dans laquelle l'agressivité, le déclin et la désagrégation sont maîtres. C'est pas un film optimiste.
Je n'ai pas la pression. Alors, Marie-Jeanne, tu veux nous parler de RBG, qui n'est pas le nom d'un vaccin.
Non, alors, justement, c'est un documentaire de deux réalisatrices et productrices américaines et qui nous fait découvrir la vie fascinante de Ruth Bader Ginsburg, 85 ans aujourd'hui. Alors, c'est une des femmes les plus importantes de nos jours et le dernier rempart anti-Trump.
C'est une icône, à la Cour suprême.
C'est une icône très populaire aux États-Unis, où on l'appelle d'ailleurs Notorious B.I.G., en référence au rapport Notorious B.I.G. Cette femme vous enthousiasmera. Ce petit bout de femme au regard pétillant d'intelligence a réussi à se hisser aux plus hautes fonctions judiciaires de son pays, juge à la Cour suprême. Alors, le documentaire retrace son parcours et ses combats pour le droit des femmes et l'égalité des genres. Elle est née en 1933 à Brooklyn, de parents juifs émigrés d'Odessa. Elle réussit à intégrer l'université d'Harvard, où elle mène de très brillantes études de droit et où elle est la deuxième femme sur une promotion de 500 étudiants. S'étant vue refuser l'entrée au barreau parce que femme, elle se consacre à l'enseignement et se spécialise dans les discriminations sexistes. Alors nous sommes dans les années 60 et tout est à faire dans un pays où, par exemple, une femme peut être licenciée en raison de sa grossesse, où les portes de beaucoup d'institutions publiques leur sont fermées, où leur salaire est systématiquement moins élevé que celui des hommes, etc. Enfin, ça nous rappelle quelque chose. Autant de sujets qui deviennent ses combats, et elle réussit, enfin avocate, par sa parfaite connaissance du droit, par la pertinence et l'intelligence de ses plaidoiries, par son opiniâtreté, à faire bouger les lignes. Les femmes américaines savent ce qu'elles lui doivent aujourd'hui, et même les hommes, car elle a défendu un veuf qui élevait ses enfants et auquel on refusait une allocation réservée aux mères. Alors, elle a été nommée, comme tu l'as dit, en 1993, juge à la Cour suprême par Bill Clinton, et elle est la deuxième femme à occuper cette prestigieuse fonction. Là, elle est aux premières loges, elle ne désarme pas, et par sa diplomatie, son intelligence, elle arrive à obtenir des résultats significatifs d'une cour en majorité conservatrice. Ce documentaire est enthousiasmant, émouvant, il nous donne l'image d'une femme d'exception, humaine, attachante, et je vous le recommande vivement. Je voudrais dire deux mots, si tu me le permets, sur un film qui sort cette semaine et qu'il faut que vous alliez voir, qui est prix du jury œcuménique à Cannes, ce qui n'est pas rien, c'est Capharnaüm de Nadine Nabaki. Le thème est le thème des émigrés à Beyrouth, oui, avec deux enfants absolument super, magnifiques, des prises de vue somptueuses. Enfin, allez voir ce film. Non, à ne pas rater.
Yves, eh bien, on va terminer par un dessin animé. Voilà. avec un sujet peut-être plus léger, encore que. Bon, il s'agit bien sûr de Dilili, le dernier film de Michel Oslo qu'on ne présente plus. Voilà, mais cette fois, avec Dilili, on quitte l'Afrique de Kirikou pour suivre à Paris donc cette jeune Dilili, une sorte de version féminine d'ailleurs de Kirikou, quand on voit sa vivacité, son intelligence, sa souriante obstination. On est au début du XXe siècle, dans le Paris de la Belle Époque, et Dilili, cette métisse, c'est une métisse venue de Kanaky, se trouve dans notre capitale, parce qu'elle fait partie d'un village kanak qui a été reconstitué à Paris pour
l'exposition universelle.
Pour oui, enfin, on ne voit pas si c'est... Bon, oui, pour l'exposition universelle. Bon, elle va faire la rencontre d'un jeune livreur, Aurel, avec son triporteur, et avec lui, elle va se lancer dans tout Paris, qu'ils vont parcourir ensemble, mais à la recherche de jeunes filles, de fillettes, même de petites filles, qui ont été enlevées par une bande, la bande des malmaîtres. Alors, dans tout ce parcours, elle va rencontrer des tas de personnages très connus, puisqu'on va rencontrer les peintres impressionnistes, Picasso, on va rencontrer Proust, on va rencontrer Pasteur, et j'en passe. Un petit mot juste pour Toulouse-Lautrec, parce que j'ai beaucoup aimé la scène avec Toulouse-Lautrec. Et puis surtout, quand même, elle va rencontrer des femmes. Et ça, c'est extrêmement important. Sarah Bernard, la cantatrice Emma Calvé. Bon, il faut que je fasse vite, je vois.
Oui, parce que on est en train de déraper.
Bon, écoutez, je fais très vite. Non. C'est un film absolument magnifique. Allez le voir. Peut-être un peu lourd dans sa morale antiraciste et féministe, mais tellement beau, tellement magnifique.
Mais plutôt pour adultes que pour enfants.
Non, il faut le voir avec... Petits et grands,
d'accord,
ensemble.
Très bien. Voilà. Très bien. Merci Yves. Donc le dernier film là, que je voudrais vous présenter très rapidement, c'est Nos batailles de Guillaume Sénèze, qui nous livre un film social, je dirais presque un film du quotidien. Ce film commence par nous montrer une famille unie, un père contremaître dans une grande entreprise de vente par Internet, une mère Laura vendeuse dans une boutique de vêtements, et deux enfants, un garçon de 9 ans et une petite fille de 6 ans. L'ambiance de travail du père est stressante, mais la famille apparaît plutôt comme un havre de paix et d'amour. Et puis tout bascule. La mère disparaît, elle ne va pas chercher ses enfants à l'école, elle prend ses affaires et s'en va sans laisser ni explication ni adresse. Et habilement, le réalisateur avait glissé quelques indices, des pleurs dans sa salle de bain, un évanouissement dans la boutique, un conte raconté aux enfants comme pour les préparer à son départ. Mais la surprise est totale pour Olivier et les enfants. Et le reste du film raconte la vie après ce départ. Donc les difficultés d'organisation pour concilier la vie professionnelle et familiale, le manque d'argent, le manque affectif. Olivier, donc le père, se débat, voudrait comprendre, cherche sans succès à retrouver Laura. Et il est soutenu par sa mère très présente, mais aussi par sa sœur, comédienne au chômage, qui vient passer quelques jours chez eux et rend la joie aux enfants. Tout cela sonne très juste, aussi bien la vie de famille que la vie au travail, avec une vision d'ailleurs glaçante de ces gigantesques entrepôts et des ouvriers, le plus souvent en CDD, qui doivent répéter inlassablement les mêmes tâches avec la menace toujours présente du licenciement. Les acteurs sont remarquables, notamment Romain Duris, et puis aussi celle qui joue la sœur d'Olivier, Laetitia Doche, dont l'exubérance affichée masque la fragilité et l'insatisfaction devant ce qu'est sa vie. Donc un beau film, à la fois réaliste et touchant, et dont l'humour l'empêche de tomber dans un accès de pathos. Conclusion. Eh bien, je crois que le temps est venu de rendre l'antenne. Nous avons été un peu longs aujourd'hui. Merci à Claude-Jeanne, Yves et Jean-Michel qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à qui nous disons à bientôt. Chant contre chant est programmé tous les quatrièmes mardis du mois de 13h15 à 14h. Et nous vous donnons donc rendez-vous le mardi 27 novembre.